Conversation avec Tony Negri.
De participer à cette entrevue lors de votre visite à Montréal. On vous remercie. Donc, comme je vous mentionnais tout à l'heure, il va y avoir quatre courtes parties. Les premières questions un peu plus d'ordre général. Après ça, on va aller sur une question sur les enjeux politiques actuels, sur vos préoccupations actuelles, entre autres votre séminaire ou l'Institut des métropoles. Et peut-être à la fin, s'il nous reste du temps, sur votre livre « Art et multitude ». Commençons déjà avec la première question. Avec vos concepts d'empire, de multitude qui remplace, dites-vous, ceux d'État-nation, de peuple ou de classe ouvrière, vous affirmez, semble-t-il, qu'il faut changer le vocabulaire conceptuel de la pensée politique. En quoi un tel changement est-il nécessaire pour comprendre l'ordre de la mondialisation et pour agir dans celui-ci?
Oui, mais quand je dis que le concept d'empire à multitude peut remplacer ceux d'État-nation, de classe, je dis avec beaucoup de prudence quand même. C'est-à-dire que ce sont des thématiques théoriques qu'on pose et qu'on voit en tendance, on les voit capables, non, vraiment, d'avoir cette fonction. C'est-à-dire que ce qui m'intéresse est surtout poser le problème. Le problème politique à l'auteur des transformations qui se sont données. Il y a un marché mondial. Ça, c'est la chose sur laquelle, jusqu'à hier, je crois, il y a quelques mois, personne n'avait des doutes. Maintenant, j'ai vu même des bouquins qui commencent à dire « Fin de la globalisation est finie ». J'ai quand même l'impression que c'est un peu tôt. Voilà, c'est un peu difficile d'insister sur le fait que la globalisation soit finie. Je pense que le grand problème est celui de donner à la globalisation des formes politiques, c'est-à-dire essayer de comprendre s'il y a encore sur la globalisation souveraineté, de quel type de souveraineté il s'agit, et justement quelles sont les formes de gouvernement, hein, qui est au niveau de la mondialisation, c'est-à-dire de la globalisation du marché mondial et de la mondialisation des langages, des échanges, dans une certaine unification culturelle, dans une certaine ouverture continue des marchés, de la force de travail et tout ça. Quels sont les problèmes qui vont se poser? Et d'un point de vue-là, c'est évident que quand on part avec l'hypothèse justement que le marché mondial est aujourd'hui capable de rendre flexibles les frontières, de rendre mobiles certains secteurs des populations et incapables de sortir des effets de la souveraineté nationale, à ce point, il faut se poser le problème d'une transformation de certains concepts fondamentaux. C'est par exemple ce que j'ai fait dans le séminaire de l'année passée, non? C'est vraiment les choses de lesquelles on parlera un peu ce soir, je crois.
Il y a eu cet essai de comprendre ce que signifie aujourd'hui souveraineté, nation, peuple, mais surtout ce que signifie aujourd'hui frontière, ce que signifie aujourd'hui paix et guerre. Qu'est-ce que signifie aujourd'hui, quels sont à l'intérieur en particulier de ces concepts, qu'est-ce que signifie la circulation capitaliste en plus, hein? Mm-hmm. Parce que les problèmes des critiques de l'économie politique, ils sont des problèmes qui, au niveau géopolitique, deviennent des problèmes centraux et des problèmes politiques eux-mêmes. C'est-à-dire que là, c'est le point autour duquel la transformation des concepts de la science politique devient un déplacement de terrain et des méthodes. Et c'est ça la chose fondamentale. Ce n'est pas le fait que... Moi, j'insiste énormément sur le fait qu'entre ce que j'appelle le moderne et ce que j'appelle encore le postmoderne, comme ça, il y a une césure. Je suis assez polémique avec, par exemple, tous les sociologues ou les penseurs, plus ou moins philosophes, culturalistes, comme ça, qui pensent qu'aujourd'hui, on vit dans une hypermodernité. C'est-à-dire, ça, ce sont surtout les Allemands, Ulrich Beck, non, qui a surtout travaillé autour de ce concept d'hypermodernité. L'hypermodernité, c'était en réalité un peu un cadre de la mondialisation, de la globalisation, tel que vous voyez, je ne sais pas, le dernier Adorno, Keimer, voilà. Et, c'est-à-dire une expansion du capital, une subsomption réelle, non, que le capital est exercé sur la société, non, une absorption de ces sociétés, mais sans des transformations de fond. Le concept d'exploitation est resté le même. Le concept de mobilité est resté le même. C'est ça au contraire qui m'intéresse, non ? Identifier un nouveau paradigme qui corresponde à la globalisation.
Moi, ce que j'ai senti dans ce changement de concept, c'est une autre manière de dire, de voir et de vivre la politique.
Si vous voulez, mais c'est surtout avant le fait de vivre la politique de manière différente. Et je pense que ça, je ne sais pas, déjà dans les mouvements intermondialistes, on a commencé à avoir cette expérience de vie, non, cette Leibniz nouvelle. Voilà. Mais ce qui m'intéresse d'un point de vue philosophique, c'est vraiment le changement de paradigme. Ça, c'est la chose qui est fondamentale.
Pour revenir un petit peu aux origines du terme multitude, donc la deuxième question, le concept de multitude qui alimente aujourd'hui une partie de la pensée post-marxiste est inspiré par celui de Spinoza. À quoi attribuez-vous le retour de ce concept et en quoi le sens qu'il a aujourd'hui se distingue-t-il de celui que lui donnait Spinoza ?
Écoutez, moi je ne sais pas si les gens qui ont réinventé, repris non, le concept de multitude, non, ils l'ont repris de Spinoza, non ? Il y a quelqu'un, non ? Qui se souvenait, non, le concept de multitude, c'est Spinoza et qui l'a introduit, mais ça c'est... Après, pour les gens, qu'est-ce que signifie multitude aujourd'hui ? Ça signifie, je crois... fondamentalement, le fait que les multitudes sont un ensemble de singularités, non ? Être un ensemble de singularités, c'est quelque chose qui est profondément différent d'être une masse, une classe repliée sur soi-même, sans tripette, pour ainsi dire, voilà. Si vous, je ne sais pas, moi, je viens de Paris, non ? J'ai vu, par exemple, les manifs contre le CPE. Ce sont des manifs dans lesquels la différence, par exemple, avec les derniers grands, très grands manifestations parisiennes qui sont peut-être celles du 95-96, la différence est extraordinaire. En 95-96, il y avait encore cette classe ouvrière, ce secteur de classe ouvrière extrêmement fort, non, qui conduisait les manifs. C'était encore des manifs assez métalliques, non, bloqués, non, avec les cheminots en tête, non, avec couleur, avec force. Aujourd'hui, ce sont des manifs dans lesquels il y a chacun son drapeau, chacun qui a son couleur. Ce sont des manifs d'un métissage impressionnant des couleurs et des comportements, on suppose aussi d'idées. Voilà. Et ça, c'est vraiment la multitude. Et quelle différence il y a avec Spinoza ? Moi, je ne sais pas. Moi, je peux dire... On ne va pas demander aux gens qui faisaient la manifestation là, à Paris, non, contre le CPE, qu'est-ce qu'ils pensent de Spinoza. Je peux demander moi-même, quand même. Et moi, je pense qu'il y a un effet, le discours de Spinoza sur ce rapport entre singularité et à travers, non, certains comportements éthiques, rejoint... pas une unité, mais une communauté. Voilà. Et que cette communauté est capable d'exprimer des institutions, c'est-à-dire constituer une société. Voilà. Une société avec toutes ces formes, non, qui sont aussi des formes politiques, non, qui sont aussi des formes étatiques. Cette continuité entre société et État, il y a ce qui ça, c'est absolument fondamental du concept des communautés, des multitudes. Et ça, je pense que c'est une très grande. Forme de similitude qu'il y a entre les concepts qu'aujourd'hui certains ont présentés et le concept qui fonctionne et le concept spinoziste. Je crois en plus que chez Spinoza, il y a cette forme justement non religieuse mais fortement immanente, non, qui est celle qui voit dans ces rapports de singularité vers le commun, il y a un égoïsme, non, qui agit. Ce n'est pas un amour qui naît, je ne sais pas moi, d'une passion, qui ne soit pas une passion justement de l'individualité qui essaye d'expliquer sa force de préserver la vie, non ? Donc son égoïsme fondamental, non ? Qui naît la communauté et la société. Ce n'est pas ni un contrat, ni un acte d'amour, non ? C'est un cupide, c'est un conatus qui devient cupiditas. Et ça, c'est profondément différent de toutes les théories qui est communautaire, que plus ou moins on connaît.
Une communauté d'égoïstes.
Et c'est une communauté d'égoïstes qui devient, parce que c'est justement seulement à travers l'amour, non, le désir, non, qu'on dépasse la pauvreté, non, la misère, le besoin des autres. Même le rapport entre pauvreté et amour de platonicien est de ce point de vue complètement. Ce n'est pas la restauration d'une unité, c'est dans le banquet, dans toute la tradition platonicienne, non, ce qui se passe là. C'est plutôt la constitution continue, voilà, sur la base de forces.
À ce propos, est-ce que vous pouvez nous parler un peu de la révolte des banlieues, qui a eu lieu, bien entendu, avant les CPE, mais comment vous arrivez à percevoir ça, ce qui s'est passé à ce moment-là?
Je pense que la révolte des banlieues a été l'introduction, non, à la lutte des CPE. Peut-être que sans la lutte des banlieues, il n'aurait pas eu de CPE. Pas seulement parce que, dans une certaine forme, extrêmement hypocrite, le CPE a été présenté, non, comme réponse à la révolte, pas à la révolte, mais à la situation des malaises et des difficultés dans lesquelles vivaient des gens de banlieue. Mais je crois que là, il y a eu... C'est-à-dire que le problème était le même. Le problème de la... C'était évident qu'à niveau de banlieue, ce problème est multiplié pour la haine, non ? Voilà. Et donc, que la situation d'extrême pauvreté, d'exclusion, non, devient extrêmement dure, non, et d'un certain point de vue, le comparer à la situation de la jeunesse, non, qui étudie, qui travaille dans le centre de Paris, est assez difficile, certaines fois, paraît, oui. Mais je crois qu'au fond, non, d'un point de vue sociologique dur, non, si vous voulez, le problème soit le même. Et qu'est-ce que c'est ce problème? C'est le problème que dans une société désormais postmoderne, postfordiste, il n'y a pas la capacité de comprendre que le travail est travail social. Et que même les exclus sont dedans, plus dehors. Et qui participent de cette multitude qui est aussi un concept de classe. Parce que c'est ça la différence, si vous voulez, pour revenir à votre question, non? Le fait que sûrement chez Spinoza, le concept de multitude n'était pas un concept de classe. Mais aujourd'hui, au contraire, quand le concept de multitude était proposé pas seulement en tant qu'un concept de la science politique, pour ainsi dire, non, mais aussi comme un concept qui est lié à une certaine forme et transformation du travail, de la force travail en général.
Alors là, on revient avec votre concept de multitude. Dans Multitude, vous n'avez pas la prétention d'offrir un programme d'action à l'usage de la multitude, ce qui est tout à fait logique, puisque la multitude, étant immanente et constituante, ne peut être dirigée par un programme. Mais vous avez tout de même un nouveau projet démocratique. Pouvez-vous nous dire en quoi consiste ce projet et quelle est son incidence sur la constitution de la multitude?
Moi, je ne sais pas si j'ai... Certainement, je n'ai pas un programme politique, mais je ne sais même pas si j'ai un programme pour une nouvelle forme de démocratie. Ce qui est certain, non, c'est que je pense qu'aujourd'hui, il soit impossible de penser politiquement, non, en dehors vraiment d'une forte dimension d'immanence. Donc, être dans l'immanence, ça signifie c'est poser les problèmes traditionnels, de la pensée politique, démocratique et constitutionnelle de manière différente. Quels sont les pôles fondamentaux de nos pensées démocratiques et constitutionnelles aujourd'hui sont le concept de représentation, non ? La représentation politique, sont le concept de division des pouvoirs et le concept de contrôle juridictionnel, non ? Ça, ce sont les trois éléments fondamentaux, non, autour desquels la démocratie aujourd'hui s'organise. Et je crois, mais ce sont trois concepts qui sont des concepts dans quelque forme, de quelque façon transcendantes, pas immanentes. Le concept de représentation avant tout, non. La représentation est une représentation qui est vue comme une représentation qui n'est pas la représentation des individus, des citoyens, des singularités. Mais c'est la représentation de l'unité, de la totalité. C'est la représentation de la nation, non ? Quand vous entrez en Parlement, vous n'êtes plus un citoyen propre, non ? Et vous êtes transféré à cette fonction, qui est cette fonction générale. Vous êtes représenté par la volonté générale, non ? Vous êtes un représentant de l'expression de la volonté générale. Tout le problème de la division de pouvoir est un problème qui naît déjà, non ? Sur cette espèce de contrôle circulaire, non ? Que va se déterminer. Mais dans une situation dans laquelle la forme même, l'intégration même des corps sociaux, et donc de la multitude qui est aussi en réalité sociale, empêche que ce passage des fonctions et cette fixation des fonctions différentes puisse agir. Et ne parlons pas à la limite de la fonction juridictionnelle, non, qui est devenue quelque chose de. C'est pas caricatural, non, devant ce que devait être, non, c'est-à-dire c'est une capacité de reconstruire continuellement des formes constitutionnelles, non, la jurisprudence constitutionnelle est imaginée comme en réalité le résidu du pouvoir constituant, donc comme la capacité, non, à l'intérieur de ces mêmes machines qui étaient bloquées par la représentation, qui étaient complètement corrompues dans quelque façon par la division des pouvoirs, qui était un produit de la corruption, pour contrôler la production. Bon, il devait y avoir cet autre élément, non ? C'était le pouvoir constituant, qui, à travers le pouvoir, à travers la fonction juridictionnelle, devait fonctionner continuellement. Et aujourd'hui, on a des effets. Et c'est pas seulement la Cour constitutionnelle américaine, non ? Qui va compter les votes, non ? Les bouches, voilà. Donc, qu'est-ce qui signifie aujourd'hui ? Réouvrir le problème constitutionnel, c'est ça le problème politique fondamental, hein, qui signifie remettre en circulation les pouvoirs, c'est-à-dire les puissances des citoyens, qui signifie faire vivre ces puissances à l'intérieur d'un processus qui ne soit pas un processus de représentation abstrait, non, mais continuellement réouvert. Et donc plier les fonctions constitutionnelles à ce processus qui soit un processus.
Au lieu d'interdire, ouvrir.
Oui. Ça, donc, la façon de voir la multitude démocratique. C'est-à-dire, c'est essayer de dépasser ce qui sont les formes du gouvernement. C'est ce qu'avait fait, au fond, Spinoza, non ? Spinoza avait, à un certain point, dit, bon, on a trois formes de gouvernement, mais la démocratie, c'est la forme de démocratie, c'est la forme de gouvernement absolu. Et cette absoluité, non, voilà, de la démocratie, était justement ce déplacement vraiment, de terrain. Et je ne sais pas, moi je crois que dans l'expérience, aujourd'hui, il y a des phénomènes qui sont déjà des phénomènes qui nous indiquent que même dans la continuité les régimes démocratiques, on peut aller justement vers l'exaspération presque fasciste, non, voilà, des pouvoirs exécutifs contre tous les autres principes, à travers la guerre, l'état de guerre, l'état d'exception et tout ça, d'un côté. Mais d'autre côté, quand le problème est celui de l'administration, on se trouve de plus en plus devant la forme de gouvernance, non ? Et c'est des formes de gestion dans lesquelles les sujets sont excités, non ? À intervenir, non ? C'est complètement appelé à intervenir. Il y a cette forme de contractualisation continue de l'administration, non ? Et c'est le phénomène qu'on étudie désormais de manière extrêmement large, et dans lequel, justement, c'est évident que souvent, très souvent, non, tout ça est fait pour avoir un consensus plus large, non, et pour attaquer les points de résistance plus forts. Donc il y a une espèce de raison d'État, non, qui agit, non, dans cette transformation de la problématique de la gouvernance. Mais au-delà de ça, il y a des phénomènes profonds qui sont en train de se passer, même dans le processus, on peut dire, vraiment, sur la surface, vraiment, des mouvements constitutionnels.
On va revenir aux enjeux politiques, à certains enjeux politiques actuels. Évidemment, on ne fera pas la liste de tous les enjeux dont on a beaucoup entendu parler. J'aimerais vous poser d'abord une question. C'est, que pensez-vous des avancées de la gauche en Amérique latine? Pensez-vous que cette gauche en Amérique latine pourrait favoriser d'une manière ou d'une autre la constitution de la multitude?
Et ce qui se passe en Amérique latine, c'est sans doute c'est quelque chose d'extraordinaire. Hein. Moi, je pense qu'un historien de notre époque, s'il doit se demander qu'est-ce qui s'est passé à la fin du XXe siècle, entre le XXe siècle et le XXIe siècle, la première chose qu'il dira, c'est pas la question de la guerre d'Irak, mais c'est justement le fait que l'Amérique latine a terminé d'être le terrain sur lequel cette espèce étrange du colonialisme américain s'exerçait. Et ça, c'était vraiment la grande transformation qui s'est passée là-bas. Je crois que le moment fondamental de cette transformation a été la victoire de Lula. Lula et le Brésil, la révolution démocratique, non, ça. Le Brésil était absolument fondamental au-delà des résultats qu'elle peut avoir eu. Il faut dire que les résultats qu'elle a eus ont été des résultats surtout important sur le plan de la globalisation. Lula, il était très intelligent, très peu socialiste, non, mais très, 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 très fortement progressiste et multitudinaire. Voilà. À fur et à mesure qu'il a immédiatement compris qu'il n'y avait pas de possibilité de casser la dépendance de l'Amérique latine devant la domination des pays centraux, sans modifier la structure même du commandement au niveau mondial. Et là, l'idée de axe commercial sud-sud, de la constitution d'une monnaie unique pour l'Amérique latine, et toute une série de choses qui sont passées sur ce terrain, ont été le soutien clair, non, à tous les... la couverture contre la famille de la dette, du défaut de l'Argentine, le soutien très fort à Kirchner et à l'aile la plus à gauche du péronisme. Aujourd'hui, c'est le Montaner aussi qui commande l'Argentine. Et tout ça a été quelque chose d'une intelligence extrême. C'est-à-dire, c'était vraiment un des moments machiavéliens de l'histoire contemporaine. Au-delà du fait que les promises faites aux paysans ne sont pas accomplies. Mais il faut faire très attention parce que là, vous voyez, comme on disait avant, les problèmes politiques dans une situation de globalisation se sont transformés complètement. Et même certaines idéologies fortes qui ont été aussi à la base de la victoire de Lula, comme par exemple certaines positions de la théologie de la libération, non, qui étaient extrêmement liées au concept du maintien de la famille paysanne, donc de la petite propriété de la terre, comme élément moral et de résistance. Jusqu'au fond, la résistance politique. Tout ça sont des choses qui sont en crise. Ils sont en crise, pas pour la faute de personne, mais pour la... Parce que le monde s'est modifié et tu ne peux pas. Et si tu veux casser la dépendance des États-Unis, c'est-à-dire de la puissance qui a essayé d'avoir l'hégémonie sur la globalisation, c'est-à-dire d'être la puissance impériale, la monarchie impériale, si tu veux casser ça, il faut avoir une solution agricole qui permet d'échanger le blé à brésilien avec l'acier chinois. Et ça, c'est le prix de la liberté. Voilà. Et donc, je crois que dans tout cas, tout ça, surtout au Brésil, a été parfaitement compris. Mais ce qui se passe en Amérique latine est sans doute quelque chose d'encore plus important, non? Moi, je ne sais pas, j'ai commencé à m'intéresser un peu à la question, par exemple, du Venezuela. C'est quelque chose d'extrêmement intéressant, même si je ne pense pas qu'on puisse imaginer, non, une forme de caudillérisme, non, des caudillos, non, des consacres, les faire fonctionner à gauche pendant longtemps. Mais c'est extrêmement évident que, par exemple, au Venezuela, les processus de gouvernance, non, c'est-à-dire d'un rapport entre les mouvements et le gouvernement, il commence à s'institutionnaliser. C'est une reprise extrêmement postmoderne, extrêmement avancée d'un processus soviétiste dans la forme plus intelligente, non, comme il a été décrit par Rosa Luxembourg, certaines fois reprise dans les moments de lucidité qui lui restaient par Hannah Arendt. C'est choses qui sont extrêmement puissantes d'un point de vue de la mobilisation, qui est une mobilisation du type multitudinaire, justement. Ce n'est pas une mobilisation du type charismatique, populiste, comme c'était souvent en Amérique latine, mais elle passe à travers aussi l'émergence continue des demandes et d'organisations. Une fois qu'on a dit ça, on n'a dit rien. Parce que tout ça, ça peut terminer d'un jour à l'autre. Parce que la chose qui manque complètement au Venezuela encore, comme dans les autres pays, surtout un peu de côté des Andes, non, des pays andines, manque complètement l'imagination des formes productives différentes. Ces gens vivent sur l'argent du pétrole, sur la richesse du pétrole. Donc il y a une formidable redistribution d'argent et le niveau de vie des gens est extrêmement augmenté. Tout ça est tout à fait positif, mais ça ne suffit pas. Le fait qu'être rentier soit quelque chose qui se passe dans une démocratie, ça ne change pas la nature complètement corrompue de la rente. Voilà, c'est quelque chose qui disait Keynes, hein, c'est pas moi qui le dis. Là, mais c'est un peu la chose que vous voyez en Iran, par exemple, non? En Iran, c'est hors de doute, non, que les gens vont bien, bien. En plus, il y a un aspect de la révolution sociale, non, aussi, qui est en cours. Les gens vivent justement de cette richesse qui est aussi, dans ce cas, le prix de leur obéissance.
Peut-être qu'on pourrait poursuivre avec les élections italiennes.
Écoutez, moi, je ne sais pas. Les élections italiennes, je suis parti deux, trois jours avant la... Je suis parti de Paris. J'étais à Paris depuis 15 jours. Donc, je n'ai pas suivi les élections. Le problème des élections italiennes, ce n'est pas le problème de Berlusconi. Hein. C'est le problème de la gauche. C'est la gauche qui n'existe pas. Berlusconi, c'est celui qu'il est, cette espèce de tycoon, non, de la publicité, des affaires, etc. C'est un monstre de corruption et avec une capacité vraiment de faire devenir shit vraiment tout ce qui touche, hein, comme ça. Mais une fois qu'on a dit ça, on n'a rien dit, non? C'est la gauche qui n'a pas un programme qui soit un programme alternatif. C'est la gauche qui a un ensemble de forces, non, qui sont complètement incapables. C'est une force qui, justement, comme toute la gauche, je crois, dans les pays développés, n'a pas compris la transformation du mode de production. Le fait que, de plus en plus, je ne dis pas de manière complète, je ne dis pas de manière définitive, mais de plus en plus, c'est le travail immatériel, intellectuel, c'est la dimension cognitive et le savoir, la dimension cognitive du travail et le savoir, qui sont l'élément absolument fondamental. Et que c'est seulement à partir de ça qu'on peut commencer à construire un nouveau projet de vie civile et de vie citoyenne.
Donc la gauche resterait trop prise avec des idées donc de lutte ouvrière à l'usine.
Mais c'est pas seulement ça, parce qu'en plus ce n'est plus même plus ça. Le problème c'est que d'un côté, d'un point de vue corporatif, elle défend les positions du pouvoir, les vieilles positions du pouvoir, qui sont des positions complètement minoritaires dans le social. Et d'autre part, elle se déplace vers une espèce, entre guillemets, de classe moyenne, non, qui n'existe plus. Et donc, il se déplace vers le centre, non, pour lier les groupes corporatifs qu'elle possède, parce qu'elle les possède, à travers, en plus, en Italie, à travers ce qui est une organisation économique, non, elle passe à travers les mairies, les coopératives, les banques, et tout ça. Et d'autre part, c'est cette classe moyenne, qui est une classe moyenne qui, au contraire, n'existe plus, qui est complètement... dans laquelle on peut reconnaître justement les couches, non, des travailleurs intellectuels et tout ça, des couches surtout liées à ce risque, et tout ça, mais ce sont des choses que l'on a. Et d'autre part, il y a rien, une crise formidable, extrêmement puissante de tout ce secteur social. Or, Berlusconi est capable, non, de recueillir cette classe moyenne, non, en forme démagogique. Et eux, non. Et donc, et même, ils arrivent, je ne sais pas, mais j'espère que maintenant, ils arrivent au gouvernement, mais je ne sais pas combien de temps ils auront le temps, combien de temps ils auront pour essayer de faire un gouvernement et après...
Finalement, ce tiraillement entre le centre-droit, le centre-gauche, qui finalement, comme vous le montrez, bien souvent se recoupe beaucoup dans le centre-droit, le centre-gauche, et... Il semble y avoir une stagnation du pouvoir parlementaire.
Il y a une stagnation, tout à fait. Si vous voulez, et puis au fait qu'ils ne se sont pas renouvelés.
Mais justement.
Et quand ils ont essayé de se renouveler, non, ils se sont aplatis sur un espèce de centre administratif du processus politique.
Mais justement, cette stagnation qu'on commence à ressentir et qui transparaît même dans les médias, qu'il y a une stagnation entre le centre-gauche, centre-droite qui se tiraille, ce ne serait pas un bon moment de montrer la dynamique de la multitude ou d'essayer d'intervenir et d'essayer de...
La multitude n'est pas toujours bien. Il peut y avoir aussi des multitudes mauvaises. Les multitudes qui sont obligées de rester dans le processus de domination. La révolution, le fait qu'il existe des multitudes, c'est pas le fait qu'il existe un processus révolutionnaire en acte. Il y a quand même un redoublement continu, même dans l'existence des singularités de la multitude.
Avez-vous un exemple de mauvaise
multitude? Un exemple de mauvaise, je pense que la situation italienne, soit de ce point de vue, absolument précise, non, dans laquelle vous avez vraiment une société complètement bloquée. Ben, bloquée de tous les points de vue, parce qu'elle est bloquée même d'un point de vue productif. Je crois que c'est la société européenne qui a eu une croissance zéro.
Un peu l'égoïsme dont vous parliez au début.
Oui, c'est ça, c'est un égoïsme qui n'est pas devenu social. Hein.
Il y a une autre question. Dans Empire, vous avez défini avec Michael Hart trois droits qui favoriseraient le mouvement de la multitude. Hein, le droit de la citoyenneté mondiale, le droit à un salaire social et le droit à la réappropriation des moyens de production à l'ère post-fasciste. C'est-à-dire avoir accès, contrôler la connaissance, l'information, la communication et les affects. Je me demande, est-ce que croyez-vous encore en ces droits? Et surtout, est-ce que le droit à la réappropriation que vous définissez comme le telos de la multitude ferait-il de cette dernière l'organe de gestion du commun ou de l'ordre social?
Moi, je crois qu'en effet, ça, c'est absolument fondamental, non? C'est évident, non, que certaines fois, de manière tout à fait générique, non, c'est presque une métaphore, non? Mais c'est l'ordre de la toile, non? Et un peu aussi l'ordre de la multitude, non? De la toile du net, non? Voilà. Oui, ce rhizome, c'est cet ordre horizontal, c'est cette accumulation, non, si vous voulez, des travail, non, des travaux, non, qui se développent, non, pour arriver à, d'un côté à l'indépendance de la coopération, non, c'est une indépendance qui s'est née, non, des singularités, non, de chaque point, voilà, et d'autre part, la croissance commune, non, de ce développement. Donc, c'est pas un hasard, non, le fait que cet horizon, non, voilà, soit continuellement menacé, non, ou déjà, je ne pense pas qu'on soit un point dans lequel irréversible, non, mais
seulement.
Pas de doute, non, que le capital essaye d'y mettre les mains et de s'en approprier d'une manière absolument fondamentale. Quand on parle de réappropriation, ici, on parle vraiment de ce qui est la possibilité de vivre d'un point de vue politique. Cette expérience de la coopération de l'honnête, de la liberté de l'honnête. Je ne sais pas, mais dernièrement, par exemple, en France, justement, une des choses les plus importantes à côté du CPE, non, était la lutte, non, pour la possibilité de recopier, non, la musique.
Oui.
Ça, c'est fondamental. L'autre chose fondamentale, par exemple, au Brésil, non, une des choses absolument fondamentales, c'est le fait que Gilberto Gil, non, le ministre de la Musique, a vraiment ouvert l'honnête à tout le monde, à tout la possibilité vraiment de tout s'en approprier. Voilà. Là, ce sont des formes de démocratie réelles. Et ça, donc, dans ce point de vue, or, c'était évident, non, que ces contenus sont des passages, par exemple. Même la question du salaire, non, de citoyenneté, non, du salaire politique, tout ça, non, en forme universelle et sans condition inconditionnelle, comme est en train de se poser, par exemple, dans la lutte du CPE, non, tout le monde a commencé à comprendre que cette mobilité, cette flexibilité, cette mobilité spatiale, cette flexibilité temporelle qui était demandée à la post-travail, surtout à la post-travail jeune, avait la nécessité d'avoir une espèce de, comment dire, de filet de protection. Non, c'est-à-dire que quand tu vis dans la manière, non, dans laquelle on te demande, non, sans plus des revenus continus, non, mais liés à, justement, à cette variation du temps et de l'espace, la seule solution est celle de justement construire des filets de sauvegarde. Et le salaire des citoyennetés, ou le revenu de citoyenneté, représente ça. Mais c'est bien vrai que le revenu de citoyenneté doit être utilisé même aussi comme moyen d'exclusion. Hein. Donc, comme moyen d'exclusion, comme pour l'eau, non, loi pour le pauvre, et pas comme une loi, comme une forme d'intégration.
Donc il faut être extrêmement vigilant dans ce qu'on propose.
Il faut être extrêmement vigilant sur ça. Donc cet héritage que quand nous on propose, par exemple, certains éléments, non, il faut aussi être attentif, non, à l'utilisation, aux formes, non, dans lesquelles ces propositions sont utilisées. C'est seulement, je crois, si on revient au grand problème qui est le problème constitutionnel, qui est le problème de la transformation des formes, des fonds, de l'organisation de la vie sociale, et même ce passage de ces positions peut être interprété.
Est-ce que votre engagement pour la construction européenne irait dans ce sens-là?
Écoutez, l'engagement pour la construction européenne était une des choses les plus absurdes. C'est une des expériences les plus absurdes, non, que j'ai vécues dans la dernière période. Et bien, moi, je ne sais pas, j'étais tellement crétin, non, évidemment, non, que j'ai croyé que se battre contre quelque chose que les Américains, non, ne voulaient pas, non, était utile. Moi, je pense qu'à partir de 1953, c'était la CE2, non, et la Communauté européenne de défense. Les Américains, pendant 50 ans, non, ils se sont opposés au fait que l'Europe puisse être, non, un pôle, non, fondamental, mondial, d'un point de vue géopolitique, extrêmement lourd, non, pour ça qu'il soit, d'un peu de façon, dit pas un contre-pouvoir, parce qu'étant donné les classes dirigeantes européennes, hein, on va le dire sûrement, mais quand même, structurellement, quelque chose, non, qui a résisté à Washington. Bien, tout l'extrême gauche, non. Ils m'ont dit que j'étais un traître. Moi, je suis resté très mal, je dois vous dire, hein, parce que je ne croyais pas que c'était aussi facile de devenir traître, étant donné que j'avais vécu des autres expériences, non, qui n'avaient pas permis, non, d'être aussi facilement traître. Voilà. Mais là, une fois dit ça, non, c'est vrai, non, que la Constitution européenne, qui a été présentée, n'était pas utile, peut-être, non, à construire un espace de multitude, non, dans lequel des propositions de renouvellement profond, non, pouvaient passer. Mais dans tout cas, c'était quand même une obligation à se confronter sur un terrain global pour toutes les forces qui aujourd'hui sont au contraire bloquées, non, Et d'autre part, ce n'est pas que le néolibéralisme il n'est pas gagnant non, sur le terrain national. Au contraire, c'est ce que je dis toujours, non, les patrons, non, ils ont toujours aimé l'État-nation. L'État-nation est quelque chose qui est... Dans lesquels ils se sont toujours habillés très bien, non ? Ils ont été capables, non, de construire le patriotisme, non ? Ils ont envoyé les gens à s'entretrouer, non, l'un contre l'autre, vraiment. On a eu des millions de morts en Europe, non ? Autour de cette histoire horrible, non, de l'État-nation.
Donc, vous voyez dans l'Europe une façon d'échapper un peu à l'État-nation,
Je vois une chose d'échapper là où, en particulier, cet dépassement de l'État, c'est déjà là. Si vous pensez à ce qui est la monnaie européenne, c'est une réalité qui est une réalité extrêmement importante. Et c'était évident que jouer sur l'État-nation, c'est jouer sur la Constitution européenne, était justement la possibilité de commencer à rendre démocratique cette extension. Non,
qui est inévitable.
Qui est inévitable en plus. Mais ceux qui ne sont pas inévitables sont des temps longs, non ? Aujourd'hui, on a un mécanisme qui est encore un mécanisme absolument frustrant, non ? De ce point de vue, non ? Ce mécanisme de jurisprudence qui marche et qu'on construit sur des niveaux multilevels, sur des passages multilevels de moments, de tout. C'est quelque chose de pratiquement impossible. C'est un processus bureaucratique qui, d'un côté, construit une unité européenne, de l'autre côté, nous la rend tellement rigidifiée, voilà, que ce sera vraiment difficile à utiliser. C'est plutôt le sacre roman empire qu'une Europe vivant, non, ce qu'on aura entre les mains. Et on aura un philosophe, ce sera pas Spinoza, hein, le philosophe de l'Europe nouvelle, mais ce sera plutôt Pufendorf, le grand théoricien de l'Empire romain sacré.
Vous animez ce trimestre à Paris 7 un séminaire intitulé « Multitude et métropole » dans lequel vous considérez que la dissolution de l'usine en tant que lieu central de lutte à l'ère du travail immatériel a entraîné un déplacement du sujet révolutionnaire vers l'espace de la métropole. Comment les métropoles, en remplaçant l'usine, peuvent-elles devenir le lieu de la production de nouvelles subjectivités ?
Moi, j'avais mis le point d'interrogation après la première partie de votre discours. Je savais pas que la deuxième soit déjà soit assez difficile en tant que question. C'était évident que derrière cette question, il y a une analyse nouvelle, non, du territoire, non, du travail, mais surtout des relations de travail. C'est-à-dire que les éléments polémiques, non, si vous voulez, qui sont ouverts, non, à l'intérieur du débat du séminaire, ont été avant tout la conception de la ville, de la métropole, en tant qu'externalité économique. C'est-à-dire, tout le monde est plus ou moins d'accord, non ? Là, tout le monde qui participe au séminaire, les sociologues, les économistes, les philosophes, les urbanistes, tout ça, sur le fait que désormais, on ne peut pas parler de productivité si on ne parle pas de cette circulation, non ? Vraiment des savoirs, des réseaux, et donc la productivité naît surtout, non ? Vraiment dans cette relation métropolitaine, urbaine. Deuxième chose sur laquelle tout le monde est d'accord est que le travail cognitif est hégémonique, non, à l'intérieur, non, de la production de valeur. Quand on dit de valeur, on dit pas tout la production, mais les valeurs, surtout les valeurs qui organisent, qui ordonnent. Après, commence le grand problème de l'externité. Qu'est-ce que c'est être, c'est-à-dire, le problème c'est ça, c'est l'usine qui mesure le travail, c'est encore l'entrepreneur qui mesure le travail, ou la coopération d'un point de vue urbain est en soi capable de devenir sujet. Vous voyez qu'on est encore derrière, non, parce qu'il y a une demande, une question politique. Mais je pense que sur ça, on a procédé beaucoup. On a procédé beaucoup dans différents sens. Par exemple, je ne sais pas, en considérant les divisions urbaines, non, comme quelque chose qui n'est pas en réalité définitive. Même les ghettos, même les banlieues, comme ça, font partie de cette circulation urbaine extrêmement importante. Ça, c'est un premier élément qui est sorti de façon très importante. Le deuxième élément a été celui de la... Bon, je me souviens pas. En tout cas, les thématiques sont celles-là. La question que vous pouvez poser, si l'usine, si remplaçant l'usine peut devenir le lieu d'une production d'une nouvelle subjectivité, je pense que tout ce qu'on connaît nous donne, c'est pour comme base de ça.
Donc c'est un séminaire qui va se poursuivre, oui, une réflexion.
Et l'année prochaine, on devrait, je crois, s'accompagner avec des enquêtes liées dans les mairies de la banlieue, à partir de certaines mairies de la banlieue, en particulier de la Saint-Denis et de Nanterre. Oui, ce sont des c'est-à-dire le séminaire devrait se lier à des masters qui sont faits dans les facultés. Des masters qui vont... Qui... Mais ce sont des choses qu'on est en train de discuter maintenant.
Monsieur Negri, on vous remercie beaucoup pour cette entrevue.
C'était une conversation avec Tony Negri. Thank you.